Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorsil et Anastasie Tudiech.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 5 mai 2016. Au sommaire ce soir, à 24 heures après le massacre d'Erengeti, en territoire de Beni, cette région de l'est de la RDC observe une journée de deuil.
Le commandant adjoint de la force onusienne, le général Bayo, rassure et souligne que ces derniers massacres viennent renforcer la coopération des forces sur le terrain avec l'engagement de tous les moyens de la MONUSCO.
Journée ville morte sur tout le territoire tchadien à l'appel de l'opposition. Ça n'a pas été tellement suivi. L'objectif était de protester contre la réélection du président Idriss Déby.
On garde le silence pour que la paix règne au Tchad. On ne veut pas fuir de gauche à droite, sortir, tirer sur les gens. On n'aime pas.
Élections aux États-Unis, Donald Trump est assuré de l'investiture pour la présidentielle de novembre. Mais pourra-t-il survivre aux dissensions internes du Parti républicain ?
Et bien sûr, nos pages sport et économie, tout de suite après le journal.
La société civile du territoire de Beni a décrété ce jeudi journée ville morte pour dénoncer l'insécurité dans les localités d'Oicha, Mbao et Erengeti. La décision fait suite notamment à l'assassinat de 18 personnes par des présumés rebelles ougandais ADF. Nicolas Pinault.
Oui, la société civile dénonce le massacre à l'arme blanche d'au moins 18 personnes, le énième du genre dans le territoire de Beni, au nez et à la barbe de l'armée congolaise et de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. La société civile appelle la population locale à observer ce deuil. Teddy Catalico, le coordonnateur de la société civile du territoire de Beni, a lancé cet appel au deuil. Il déplore que le nouveau massacre ait été perpétré à plus ou moins 300 mètres d'un camp de la MONUSCO et 400 mètres d'un camp de l'armée congolaise. Ce jeudi, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku est arrivé à Beni pour évaluer la situation sécuritaire. Sur place, il a échangé avec des notables de la région. Le dispositif sécuritaire va être renforcé autour d'Erengeti, a-t-il promis. Du côté de la MONUSCO, le commandant adjoint de la force onusienne, le général Bayo, rassure et souligne que ces derniers massacres viennent renforcer la coopération des forces sur le terrain avec l'engagement de tous les moyens de la MONUSCO. Dans son appel, la société civile rappelle que le 18 décembre 2015, le président Joseph Kabila avait promis de mettre fin aux activités des ADF. Plus de 500 civils ont été tués à l'arme blanche dans ce territoire depuis décembre 2014.
Au Tchad, échec dans les deux principales villes du pays de l'opération Ville Morte lancée par l'opposition tchadienne pour dénoncer ce qu'elle qualifie de hold-up électoral du président Idriss Déby Itno, réélu pour un cinquième mandat. À N'Djamena, la capitale, les administrations ont fonctionné normalement. Les marchés, les banques et les établissements scolaires étaient ouverts et la circulation automobile aussi dense que d'habitude. Même situation à Mundu dans le sud, la capitale économique du pays. Nous aurons des explications en seconde partie d'émission.
Au Mali, deux militaires ont été condamnés hier par la cour d'assises de Bamako à 5 ans de prison ferme pour avoir fomenté une tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta en 2014. L'arrêt de renvoi décrivant l'affaire en question précise que le 3 juin 2014, le lieutenant Mohamed Ouattara, officier du 33e régiment des commandos parachutistes, et le sergent-chef Amara Sylla ont eu un entretien qui a porté sur un coup d'État militaire contre le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Des militaires ayant témoigné au procès ont aussi dit que le lieutenant Mohamed Ouattara les avait approchés afin d'attaquer le domicile du président pour le capturer, au besoin le tuer. Un autre militaire accusé d'implication dans cette affaire a été acquitté.
Au Zimbabwe, de longues files d'attente s'étaient formées aujourd'hui devant les banques, car le gouvernement a de nouveau plafonné les retraits bancaires par manque de liquidité. Idriss Fall.
Les citoyens s'impatientent devant les banques à Harare. Certains font la queue depuis hier pour retirer de l'argent. Face à la pénurie de devises, le gouverneur de la banque centrale, John Mangudia, a annoncé que les retraits sont limités à 1 000 ou 20 000 rands sud-africains. Certaines institutions bancaires ont plafonné les retraits à 200 $. Le montant susceptible de sortir du pays ne peut excéder 1 000 $, alors que la balance commerciale enregistre un déficit de 323 millions de dollars au premier trimestre. La Banque centrale va donc introduire des billets d'obligation avec lesquels les Zimbabwéens pourront faire leurs courses. Ces nouveaux billets seront indexé sur le dollar américain. En 2009, Harare avait abandonné la monnaie nationale au profit du dollar américain et du rand sud-africain à cause d'une inflation à plus de 230 millions pour cent. Le Zimbabwe, enfoncé dans une crise économique, est contraint d'importer des produits de base comme l'huile et le savon.
En Afrique du Sud, pas moins de 17 écoles ont été incendiées cette semaine, dont deux qui ont été complètement détruites et cinq autres vandalisées, selon le ministère de l'Éducation, privant 26 000 élèves de cours. Ces dégâts ont eu lieu pendant de violentes manifestations contre le redécoupage électoral de municipalités, à trois mois d'un scrutin local à haut risque pour le gouvernement. Le président sud-africain Jacob Zuma a condamné ces actes, suggérant qu'il y avait d'autres motivations derrière ces violences, visant sans le nommé Julius Malema, leader des EFF, Economic Freedom Fighters, les combattants pour la liberté économique. Julius Malema avait déclaré fin avril dans une interview à Al Jazeera qu'il allait bientôt perdre patience et faire partir ce gouvernement à la pointe du fusil.
Une femme a été sortie vivante aujourd'hui des décombres d'un immeuble qui s'est effondré il y a 6 jours à Nairobi, causant la mort d'au moins 33 personnes. C'est ce qu'a constaté un journaliste de l'AFP. Elle avait été retrouvée ce matin par les équipes de secours qui ont mis plusieurs heures à la dégager des ruines de l'immeuble situé dans un quartier pauvre de l'est de la capitale kényane. La miraculée a été immédiatement transférée vers l'hôpital Kenyatta de Nairobi. Plusieurs bâtiments se sont effondrés ces dernières années à Nairobi et dans d'autres villes du Kenya en pleine vague d'euphorie immobilière et de construction.
Pour avoir critiqué le gouvernement éthiopien sur son compte Facebook, l'ancien porte-parole du parti d'opposition éthiopien Semayawi, qui veut dire Blue Party, Yonatan Tesfaye, a été inculpé hier pour incitation à la violence et association avec une organisation terroriste, selon l'acte d'accusation consulté par l'AFP. Emprisonné depuis le 28 décembre 2015, Yonatan Tesfaye est aussi accusé par la Cour fédérale d'Addis de collusion avec le Front de libération d'Oromo, un groupe armé rebelle. Dans l'un des messages Facebook cités par la Cour, le jeune homme a accusé la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, d'utiliser la force contre le peuple plutôt que de privilégier le dialogue pacifique avec le public.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, le calme régnait ce jeudi à Alep après l'entrée en vigueur d'une trêve de 48 heures négociée par Washington et Moscou et acceptée par le régime Assad et les rebelles. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Le calme et l'annonce de la trêve mercredi ont encouragé les habitants à redescendre dans les rues et à reprendre leurs activités, a constaté le correspondant de l'AFP. Le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman, a confirmé l'absence de bombardement. Il a toutefois fait état de la mort d'un civil dans un bombardement rebelle sur les quartiers ouest contrôlés par les forces du régime syrien, quelques minutes seulement après l'entrée en vigueur de la trêve dans la nuit. Mais le gouvernement et les rebelles syriens se sont engagés à respecter la cessation temporaire des hostilités. Les combats à Alep ont fait 285 morts, dont 57 enfants, depuis le 22 avril.
La Turquie semble avoir renforcé ses attaques dans le nord de la Syrie. Suite à des tirs de roquettes, ce jeudi, sur la ville de Kilis, l'artillerie turque a bombardé les positions du groupe État islamique de l'autre côté de la frontière. Selon un dernier bilan, une personne a été tuée et 7 autres blessées. Rappelons qu'un attentat à la voiture piégée à Gaziantep, une autre ville limitrophe de la Syrie, a tué 2 soldats et blessé 22 autres personnes dimanche. Un groupe lié à Daesh serait l'auteur de cette attaque, selon l'AFP, qui cite le ministre turc de l'Intérieur.
Le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu a annoncé aujourd'hui son retrait prochain de la tête du parti au pouvoir, une décision qui devrait consolider l'emprise du président Recep Tayyip Erdogan sur le pays. Cette décision a été prise lors d'une réunion de la direction de l'AKP au lendemain d'informations faisant état d'une rupture consommée entre messieurs Davutoğlu et Erdogan. En Israël.
En Israël, la Cour suprême appelle le gouvernement à restituer aux familles les restes de Palestiniens tués dans des attaques anti-israéliennes. Les précisions tout de suite de Lionel Gaïma.
Selon les chiffres palestiniens, Israël détient les restes de 18 Palestiniens, certains depuis plus de 6 mois. Le président de la Cour suprême, Eliakim Rubinstein, a enjoint à la police de se coordonner avec les familles afin de rendre les corps avant le Ramadan, qui débute en juin. Cette recommandation n'est pas contraignante. La plus haute instance judiciaire israélienne avait été saisie par l'Organisation des défenses des droits de l'homme, Adala et Adame, au nom des familles de Palestiniens dont les corps sont aux mains des autorités israéliennes, alors que le rite musulman exige un enterrement sans délai. Le principal promoteur de la mesure, le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Erdan, estime qu'elle permet d'éviter que les funérailles de ses assaillants ne se transforment en rassemblement militant et a un effet dissuasif, ce que contestent les responsables militaires israéliens qui jugent la mesure contre-productive.
Course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis, Hillary Clinton, candidate à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de novembre, pourrait se voir dans l'obligation de témoigner dans le cadre de l'enquête sur son serveur de messagerie privée quand elle était secrétaire d'État. Le juge fédéral Emmett Sullivan, qui s'occupe de cette affaire, a en effet annoncé hier soir avoir autorisé le recueil des témoignages de proches conseillers de Mme Clinton à l'époque où cette dernière était le chef de la diplomatie américaine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Bagassi Koura.
En Guinée, le Premier ministre Mamadi Youla a présenté ce mercredi un programme axé sur la bonne gouvernance et l'ambition d'accroître les retombées économiques et sociales du secteur minier dans ce pays au sous-sol régorgeant de minerais. Première exportatrice mondiale de bauxite, la Guinée possède des gisements de minerais de fer très convoités, mais aussi de l'or, des diamants et du pétrole. Le programme des Nations Unies pour le développement envisage d'accompagner le Burkina Faso dans le processus d'amélioration des procédures de passation des marchés publics. C'est ce qu'a déclaré à l'agence APA, une source proche du ministère de l'Économie et des Finances. L'objectif du gouvernement burkinabé est de faire passer le délai de passation de marché de 4 à 2 mois. Le nombre d'institutions de microfinance de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine en difficulté, s'est élevé à 14 au 31 décembre 2015. C'est ce qui ressort selon l'agence APA d'un document de la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. L'Institut d'émission souligne que ces institutions de microfinance demeuraient sous administration provisoire. Par ordre d'importance, 3 se situent au Bénin, au Mali et au Sénégal, 2 en Guinée-Bissau, 1 institution au Burkina Faso, 1 en Côte d'Ivoire et 1 au Togo. Et puis enfin au Mozambique, l'ensemble des pays et institutions qui contribuent directement au budget de cet État ont suspendu leur aide en réponse à la dissimulation d'une dette d'1,4 milliard de dollars par Maputo.
On passe tout de suite au sport avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Parlons tout d'abord du classement FIFA, l'Algérie toujours en tête du continent africain.
La FIFA a publié ce jeudi le nouveau classement mondial. L'équipe nationale algérienne se positionne à la première place des nations africaines et au 33e rang du classement mondial. La Côte d'Ivoire et le Ghana complètent le podium africain. En tête du classement, c'est le statu quo. L'Argentine en tête devant la Belgique et le Chili.
Transfert, Ibrahimovic pourrait retourner en Italie selon son agent.
L'attaquant suédois en fin de contrat cet été avec le Paris Saint-Germain pourrait retourner en Italie, notamment à Milan, c'est ce qu'a assuré son agent Mino Raiola, cité dans la presse italienne. L'agent d'Ibrahimovic, de Paul Pogba ou de Mario Balotelli a fait cette déclaration dans une interview au magazine GQ. C'est le seul extrait concernant l'avenir du Suédois qui a été publié dans la presse italienne sur le site internet de la Gazzetta dello Sport. La superstar parisienne, on le rappelle, Chérubin, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 34 buts et aussi 13 passes décisives.
Bonne nouvelle pour le cyclisme africain, Nicolas.
Et oui, puisque le grimpeur érythréen Merawi Kudus, 22 ans, remarqué en début de saison au Tour d'Oman, prendra demain le départ du 99e Tour d'Italie avec l'équipe sud-africaine Dimension Data. Il sera le premier coureur érythréen de l'histoire du Giro.
Tennis, Djokovic en quart à Madrid, sans perdre de temps, pourrait-on dire.
Oui, le Serbe numéro 1 mondial s'est facilement qualifié pour les quarts de finale du Masters de Madrid en expédiant l'Espagnol Roberto Bautista Agut, numéro 17 mondial, en 2-7, 6-2, 6-1.
Basket professionnel ici aux États-Unis, la NBA.
Les playoffs qui continuent, les Cavaliers de Cleveland ont écrasé Atlanta 123-98 lors du deuxième match de la demi-finale de la conférence Est. Cleveland mène 2-0 avant le troisième match qui aura lieu vendredi à Atlanta. LeBron James, auteur de 27 points.
Merci Nicolas Pineau pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Anastasie Tudiech et Gaby Dorsil. Place au dossier du jour. Notre première escale ce soir, Anna, c'est N'Djamena.
Au Tchad, oui, la journée ville morte lancée au Tchad par 6 candidats malheureux à l'élection présidentielle du 10 avril a été très peu suivie. À N'Djamena, les avis des citoyens sont partagés, nous dit notre correspondant André Kodmajingar.
Pourquoi même appeler les gens à la ville morte ?
Ils ont raison de lancer cette ville morte.
Voilà les avis contradictoires des citoyens au sujet de cette journée ville morte lancée par l'opposition pour protester contre les résultats du scrutin présidentiel du 10 avril dernier qui donne la victoire au président sortant dès le premier tour. Les activités fonctionnent normalement comme si de rien n'était. L'ambiance dans les grands marchés de la capitale et dans les débits de boissons est comme celle des jours ordinaires. Quelques citoyens rencontrés demandent à Dieu de préserver le Tchad afin de ne pas retomber dans son sombre histoire récente.
On garde le silence pour que la paix règne au Tchad. On ne veut pas fuir de gauche à droite, sortir, tirer sur les gens. On n'aime pas. Le pouvoir, là, c'est Dieu qui donne. Donc ça vaut la peine même de perturber les gens.
La situation que nous vivons ici au Tchad, c'est comme si nous avons fondé notre pays dans le sang. C'est comme si notre pays est fondé dans le mensonge, dans le vol. Et dans 5 ans que nous allons commencer là, j'ai eu peur.
Aujourd'hui, si on reste à la maison, qui va nous donner à manger? Celui qui gagne peut gouverner et les autres n'ont qu'à attendre leur tour.
Pour le politologue Dr Mandounoudi Gilbert, si la journée ville morte n'est pas observée à N'Djamena, c'est parce que l'opposition n'a pas préparé suffisamment la population.
De telles actions auraient nécessité tout un travail de sensibilisation, de mobilisation des citoyens avant que les mots d'ordre ne soient suivis. Mais il y a aussi la lassitude de la population pourrait être lassée de ce que ces genres d'actions n'auront pas de résultats et au Tchad, 80% des activités économiques se déroulent dans le secteur informel. Je pense qu'ils ont davantage privilégié la recherche de leur pitance quotidienne que d'observer les mots d'ordre de l'opposition sans savoir à quoi s'attendre.
À Tikem, dans le département de Mohili, considéré comme fief du chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, les élèves sont descendus dans la rue pour manifester leur colère. Joint au téléphone par VOA Afrique, un habitant témoigne.
C'était au niveau du lycée de Tikam. Ils ont manifesté, j'ai écouté l'hymne national et après il y avait eu coup de tir. Ils ont commencé à ramasser les élèves. Ils ont pris 10 élèves en plus de 2 professeurs.
La même scène est également observée à Léré, toujours dans le fief du chef de file de l'opposition, où les élèves ont saccagé au passage le siège régional du MPS parti au pouvoir. L'on dénombre quelques blessés par balle et une dizaine d'arrestations. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Cette semaine, dans Washington Forum, la liberté de la presse en déclin. Journalistes muselés, agressés, parfois même assassinés, la censure se porte bien. Entre gouvernements répressifs et militants extrémistes, les journalistes sont-ils en mesure d'informer en Afrique francophone ? La neutralité est-elle possible dans un contexte de crise politique ? Vos questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous jeudi à 19h temps universel avec Morgane Liriec et ses invités.
Un nouveau test sans douleur pour détecter le paludisme. Au lieu d'un prélèvement sanguin, ce test utilise les urines du malade présumé et peut s'effectuer à domicile. Le gouvernement nigérian a lancé une campagne de vulgarisation de ce test auprès de la population qui a tendance à mettre toute fièvre sur le compte du palu. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le kit de ce nouveau test du paludisme est simple. Il se compose de 5 bandelettes de détection, le tout coûtant l'équivalent de $12 américains dans les pharmacies nigérianes. Il suffit de tremper une des bandelettes dans l'urine pendant 25 minutes et le tour est joué. L'apparition d'une marque sur la bandelette signifie que la personne ayant fourni l'urine n'est pas porteuse du paludisme. Par contre, deux lignes indiquent qu'elle est atteinte de cette maladie transmise par les moustiques. En plus de sa rapidité, ce test présente l'avantage de n'être pas douloureux, contrairement au test sanguin nécessitant qu'on pique le doigt du malade, présumé pour recueillir et analyser son sang. Un avantage majeur, se réjouit Ezin Agnaou, une dame faisant ses emplettes.
L'élimination du paludisme au Nigeria accuse du retard. De nombreux pays y sont parvenus et le ministère fédéral de la Santé déploie beaucoup d'efforts pour encourager des soins adéquats.
Maladie endémique dans de nombreux pays du monde, y compris le Nigeria, le paludisme atteint chaque année quelque 425 millions de personnes. Il fait plus de 400 000 morts par an. En Afrique et des enfants d'Afrique subsaharienne pour la plupart. Un diagnostic rapide est donc la clé d'un traitement adéquat. Le test de détection du paludisme par l'urine a été mis au point par la compagnie américaine Fiodor Biotechnology et expérimenté au Nigeria. Victoria Nwenmadu travaille pour Fiodor Biotechnology.
Je pense que c'est révolutionnaire car j'ai de nombreux parents qui ne savent pas nécessairement prendre soin d'eux et qui estiment chaque fois qu'ils sont malades qu'il s'agit du paludisme. Peu importe qu'il s'agisse d'un changement de régime alimentaire, tout est paludisme et ils prennent les médicaments correspondants.
Selon Mme Nwadu, la mise au point du test d'urine constitue une valeur ajoutée dans les efforts d'élimination du paludisme. Disposer d'un kit de détection au lieu d'un test sanguin facilite ces efforts. La compagnie Fiodor Biotechnology, quant à elle, veut rendre son test d'urine accessible à travers l'Afrique et l'Asie.
Présidentielle américaine, après avoir éliminé ses deux derniers rivaux de la course, le candidat républicain Donald Trump cherche maintenant à unifier son parti. Mais les deux derniers républicains à occuper la Maison-Blanche n'ont aucune intention de l'appuyer. Ce refus des Bush père et fils est symptomatique d'un certain malaise au sein de la frange traditionnelle du parti républicain où d'autres dignitaires n'entendent pas voter pour M. Trump. Même si cela pouvait signifier une victoire de la démocrate Hillary Clinton en novembre. Idrissa Seydoudia a demandé au républicain Herman Cohen, ancien secrétaire d'État, adjoint aux affaires africaines, comment il expliquait ce front du refus anti-Trump.
Oui, un grand problème chez les républicains maintenant, parce que les dirigeants du parti sont des gens de droite, des gens de conservateurs, et M. Trump n'est pas un vrai conservateur. Si vous écoutez ses propos, il a beaucoup d'idées progressistes. Par exemple, il dit « Nous avons besoin d'assurance médicale pour tout le monde, 100%. » Et les conservateurs disent qu'il faut que ça marche selon le marché d'assurance. Il ne faut pas faire comme les Européens qui ont 100% d'assurance médicale.
Mais est-ce la seule raison?
Ce n'est pas la seule raison, mais il parle comme ça, comme un progressiste, il y a certaines idées. Aussi pour les affaires étrangères, Trump est plutôt un isolationniste. Il dit nous devons dépenser notre argent pour reconstruire les États-Unis et pas dépenser à l'étranger. Mais les républicains ne sont pas comme ça. Les républicains croient qu'il faut intervenir à l'étranger pour la sécurité des États-Unis. Donc il y a beaucoup d'idées qui ne marchent pas pour les conservateurs.
Mais indépendamment de ça, bon, vous voyez qu'il a du mal donc à réunifier le Parti républicain, mais même s'il avait tout le Parti républicain derrière lui, ça ne suffirait pas pour remporter l'élection de novembre.
Oui, il a un grand défi parce qu'il n'est pas aimé par certains groupes qui sont importants dans l'élection. Par exemple, il a insulté les hispanophones, surtout les gens d'origine mexicaine. Il dit qu'il faut construire un mur entre les États-Unis et le Mexique et il faut renvoyer au Mexique des hispanophones sans papier. Et ce n'est pas très populaire. Et les experts disent que si vous n'avez pas 40% des votes des hispanophones aux États-Unis, vous ne pouvez pas gagner. Donc, et aussi, il n'a pas dit des bonnes choses sur les femmes. Et vous pouvez voir des YouTube, des vidéos de Trump depuis des années, il n'était pas gentil avec les femmes. Donc il aura un grand défi.
Mais est-ce à dire que l'élection est déjà et d'avance perdue pour les Républicains?
Non, pas du tout, parce que chez nous, les campagnes sont très longues, malheureusement. Donc après le congrès des Républicains au mois de juin, il y aura quelques mois, juin jusqu'à novembre. Donc entre juin et novembre, Trump peut essayer de réparer sa réputation dans certains groupes comme les hispanophones, les femmes, aussi les musulmans.
Le républicain Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La ville de Londres choisissait aujourd'hui son nouveau maire. Pour la première fois, la capitale du Royaume-Uni pourrait être dirigée par un musulman d'origine pakistanaise, quelqu'un qui n'hésite pas d'ailleurs d'exhiber son identité religieuse. Fils d'un chauffeur de bus, le député travailliste pro-européen Sadiq Khan est donné favori par les sondages. Il dispute la mairie de Londres au conservateur Zach Goldsmith, fils de milliardaire franco-anglais d'origine juive. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint René Claudel Mugenzi.
Ces élections, c'est très important. Ils sont très importants parce que le candidat, il est un musulman qui est tellement connu à Londres parce qu'il est déjà député. Il représente une partie de Londres, de sud-ouest Londres. Il représente le parti de travailliste et aussi notre candidat qui représente le parti qui est au pouvoir du parti conservateur. Comme on voit que et tous les sondages pensent que Sadiq Khan, le député, peut être le maire de Londres parce qu'il est vraiment très connu. Aussi, Londres, notre réseau, c'est que Londres est habité par beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de pays, il y a beaucoup de culture à Londres, donc ça fait que l'élection d'un Asiatique ou d'un musulman, c'est quelque chose qui est un peu normal à Londres.
Vous êtes candidat malheureux des législatives de 2015, vous aviez représenté le parti Red Flag Anti-Corruption, vous êtes dans le développement communautaire, vous êtes reconnu, mais vous n'avez pas été élu. Qu'est-ce que lui a plus que vous pour décrocher la mairie de Londres?
Ah, lui, il a beaucoup d'expérience, il a déjà élu comme député pendant 3 mandats et il est connu dans le parti des travaillistes. Il est connu dans la chambre des députés comme quelqu'un qui a vraiment milité pour le développement, pour le bien-être des gens qui sont des minorités. Beaucoup de minorités ont des gens désavantagés. Donc il est connu dans toutes ces campagnes depuis des années. Et quand le parti des travaillistes était au pouvoir, il y a des rois et des idées qui ont été mises en place, mais qui venaient de Rouy, ceux qui avaient championné. Donc il est tellement connu. Je pense que la population de Londres va reconnaître ce qu'il a fait en tant que député pour lui donner, je l'espère, le poste de maire de Londres.
Donc, vous voulez dire qu'il a déjà un bilan derrière lui à vendre?
Oui. Même avant même qu'il soit député, il était avocat des droits de Rome. Il a défendu beaucoup de gens à Londres contre les lois qui faisaient que les gens avaient beaucoup de problèmes dans la vie. Il est avocat de profession, avocat de droits de Rome. Et son bilan, je pense que ça va lui aider à être élu.
Travailliste Sadiq Khan, favori des sondages, il est pro-européen. Est-ce que vous pensez que son élection éventuelle pourrait influencer le référendum à Londres en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne?
Non, je ne crois pas, parce que Londres, la population de Londres en général, ils sont pour maintenir le pays dans la communauté européenne. Mais le pays en général, il y a la majorité des gens en Angleterre, sauf Londres, quelques villes. Ils sont majoritairement à l'idée que le pays doit quitter.
René Claudel Mugenzi, joint à Londres.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'était c'est la fin de cette édition. Merci à Joselle Morissin pour la mise en onde. Elle était assistée à la console de Nachouane Calais. À la présentation, Chérubin Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. La conversation se poursuit bien sûr sur Facebook où vous pouvez partager ce qui fait l'actualité chez vous, ce que vous pensez de nos émissions. Posez aussi des questions pour nos programmes interactifs et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.